Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Cet homme-là fait courir les gourmands du monde entier. Amoureux de volupté gastronomique dans un décor de bistrot à la Claude Sautet. En fait, plus qu'un chef, eh bien c'est un personnage. Le d'Artagnan de la gastronomie, le mousquetaire de l'hospitalité qui a fait du Carrefour de l'Odéon à Paris une enclave. Ses terres à lui, en bon béarnais, avec son bistrot mondialement réputé, le comptoir du Relais, et ses trois avant-comptoirs dédiés à la mer, à la terre et au marché. Voilà, cet homme ardent et inventif qui a la rondeur de son accent gascon, c'est Yves Candebord, qu'on retrouve avec bonheur sur notre antenne, dans l'émission d'ailleurs de mon ami Laurent Bariotte, La Table des Bons Vivants, le samedi, de 11h à 12h30. Et qui, bah, cet après-midi, une fois n'est peut-être pas coutume, va nous révéler les coulisses de son parcours très, très inspirant.
Europe 1.
Bonjour Yves Candebord.
Bonjour.
Alors, cher Yves Candebord, voilà, juste avant l'été, vous disiez, bon, pour moi, boulimique de travail depuis mes 14 ans, le confinement a été vraiment une grande remise en question d'ordre philosophique. En fait, mes priorités ne sont plus les mêmes. Je voudrais trouver un équilibre, avoir le temps de découvrir d'autres choses, le temps de me nourrir intellectuellement en étudiant par exemple l'histoire ou une autre langue. Bon, vous avez dit ça, l'été est passé, la vie a repris. Que reste-t-il de cette envie d'autre chose chez vous qui êtes passionné par votre métier ?
Non, il reste toujours la même envie. J'espère que l'avenir me donnera raison. Ouais, ça a été vraiment, je dirais, une révélation, parce que je suis un boulimique de travail, je suis un passionné de mon métier de cuisinier restaurateur. J'aime les gens. Je pense que ce métier, quand on le fait de la façon dont je le fais, il faut vraiment aimer les gens. Donc je donne beaucoup. Et 2 mois et demi que j'ai passé, en fin de compte, voilà, tout seul, bon, avec ma famille quand même autour de moi, mais loin de mon activité professionnelle, loin de mes clients, m'ont fait énormément de bien. Je me suis rendu compte qu'il était possible de vivre sans trop donner, à penser un peu à soi, à se nourrir soi-même.
Donc vous avez freiné un petit peu ?
Alors j'ai freiné, non, malheureusement, le départ a été assez difficile parce que voilà, l'activité professionnelle n'était pas totalement au rendez-vous, donc ouais. Il a fallu être très présent et donner encore plus par rapport à la clientèle que nous avions. Mais l'avenir très proche, m'apparaît beaucoup plus clair et ça va être un temps où je vais penser beaucoup plus à moi.
Bon, théoriquement, on devient chef parce qu'on aime cuisiner. Vous, c'est parce que vous aimez avant tout recevoir.
Oui, totalement. Je suis devenu cuisinier parce que voilà, c'est la façon que mes parents avaient de vivre quand la famille, les amis venaient à la maison autour de la table, autour à la ferme. Et donc, il y avait cette convivialité, il y avait ce partage. Voilà. À un moment donné, les gens se mettaient à table. Ça pouvait être monsieur le maire ou monsieur le médecin ou le facteur. Tout le monde était voilà, du même niveau et il y avait ce tour de table qui se dégageait où on échangeait, on parlait, on donnait ses idées, on écoutait les autres. Et ça m'a énormément passionné, c'est pour ça que je suis devenu cuisinier justement pour vivre ces moments-là.
Alors vous êtes Yves Candebord, le chef de la bistronomie comme Ducasse ou Guy Savoy, le son de la gastronomie. Mais la différence ne se joue pas dans l'assiette puisque la cuisine virtuose et inventive dont on se régale dans un 3 étoiles, et ben vous la servez dans vos bistrots. La différence, en fait, chez vous, se joue, j'ai presque envie de dire, dans le décor et l'ambiance qui pourraient être ceux d'un film de Claude Sautet. Et ce décor, bien sûr, c'est l'ADN de la France, le bistrot essentiel à notre culture. Donc, ben vous êtes un rebelle face au chef étoilé.
Rebelle, non, je dirais pas le mot rebelle, parce que le rebelle, voilà, je pense qu'il y a une forme de confrontation et je veux surtout pas me battre avec eux, bien au contraire, parce que j'ai eu la chance de travailler dans ces grandes maisons.
Oui, on va l'évoquer tout à l'heure.
Où on m'a appris à travailler. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je ressentais que cette gastronomie devenait un peu musée. On se déplaçait pour la regarder, on se disait « Ah, qu'elle est belle !» Et ce n'était pas du tout ma philosophie, bien au contraire. Moi, ce que je voulais, c'est que les gens viennent et se livrent, les gens soient eux-mêmes.
Oui, mais honnêtement, jamais vous n'avez eu le fantasme du restaurant 3 étoiles, jamais ?
Non, du tout, non, c'était pas du tout ma philosophie. C'est un monde qui est merveilleux, parce que c'est la très très grande gastronomie, mais c'est un monde d'une compétition qui est vraiment très très dure. où il y a une, il y a un stress et une pression extrême justement pour toucher cette perfection. Et c'est pas quelque chose qui nous convient, ce qui nous rend heureux.
Mais alors, cette gastronomie multi-étoilée, donc servie dans son décorum, où tout est scanné en permanence par les guides gastronomiques, qui chaque année d'ailleurs laissent tomber le couperet de la guillotine, selon vous, cette haute gastronomie, elle est appelée à représenter une niche de plus en plus réduite à long terme ?
Oui,
elle est pour une clientèle particulière déjà.
Oui, malheureusement, parce que je la trouve, pour finir, alors, mon avis personnel, c'est que je la trouve pratiquement aseptisée aujourd'hui. Elle manque d'humain. Je trouve, sans être grossier,
oui,
que la perfection, ça fait chier. Sans être grossier.
Je l'ai pensé, vous l'avez dit. Bon, alors, les grandes maisons étoilées, vous les avez quittées en 92, Yves Candebord, pour inaugurer votre premier bistrot, la Régalade, du côté de la Porte d'Orléans, donc, loin des codes, loin des dictats, loin de la rigidité ostentatoire donnée par les étoiles. Et vous dites que, en fait, vous avez décidé de remettre les clients, donc les convives, au centre du jeu. Au centre du jeu. Ils ne le sont pas dans les restaurants 3 étoiles.
Alors, à l'époque, c'était mon ressenti personnel, je trouve qu'ils n'y étaient plus. Ils allaient au musée. C'est-à-dire qu'on avait inversé les rôles. À un moment donné, c'est le client qui méritait de rentrer dans ces restaurants. Alors qu'en tant que commerçant, parce que notre métier reste un commerce, ouais, c'est toujours moi qui mériterais mes clients. Ce n'est pas eux qui me méritent. Et on avait inversé ces rôles et on était capable de leur dire « Attention, maintenant, quand on leur apportait une assiette, on leur disait « Vous allez commencer par manger ça, après manger ça, après manger ça. » Voilà. On les guidait, on les empêchait à un moment donné de se libérer, de venir passer un moment de détente dans un restaurant.
Bon, vous les conseillez, vous ne les guidez pas, vos clients.
Je les laisse faire. Voilà. J'ai ma cuisine, certes, j'ai ma vision de la cuisine, mais je ne veux pas leur imposer ma façon de penser.
Yves Candebord, vous dites que cuisinier, en fait, c'est un métier beaucoup, beaucoup plus dur qu'on ne croit. Vous avez passé votre CAP de cuisinier en 78. Et de tous les candidats qui, avec vous, ont obtenu ce certificat, eh ben, vous êtes le seul toujours en activité. Donc, tous vos camarades de l'époque ont renoncé en cours de route à un moment ou à un autre. En général, ils renoncent pour quelles raisons ?
En général, ils renoncent parce que voilà, c'est un métier qui est très, déjà très répétitif. Voilà, même si c'est un métier de création, de plaisir, je vais vous prendre un exemple concret. Voilà, d'éplucher 3 carottes, ça peut paraître assez agréable. Mais d'en éplucher 20 kilos, ce n'est pas agréable du tout. Alors, il y a déjà ça qui est très compliqué. Et après, c'est un métier où on vit totalement différent des gens. On a beaucoup de mal à avoir une vie sociale hors profession.
Ouais.
Étant donné qu'on travaille le matin, qu'on travaille le soir, qu'on travaille à Noël. Et toutes ces choses font que ce métier-là est un métier à part, où il faut vraiment être passionné et donner sa vie à son métier.
Il y a énormément de jeunes qui demandent à être apprentis dans vos cuisines, peut-être aussi parce que bon, les cuisiniers font partie maintenant des nouvelles stars de la télé. Vous les prévenez de cette réalité-là ?
Oui, on les prévient.
Bien plus rude que ce qu'ils imaginent.
Oui, complètement, parce qu'on leur dit que voilà, qu'il n'y a pas que la création et qu'il n'y a pas que la convivialité. Pour arriver à la création, la convivialité, voilà, il y a toute la face cachée qui est vraiment très très délicate. Mais aujourd'hui, notre métier a quand même beaucoup évolué grâce à la jeunesse. Parce qu'on a des jeunes qui arrivent maintenant dans notre profession, c'est des jeunes qui sont beaucoup plus mûrs, je dirais, que ma génération à moi, parce que ma génération à moi, on est tous arrivés.
On est apprentis plus tard, dans la cuisine.
Oui, on est apprentis plus tard. Et je pense que c'est un gros avantage intellectuel pour notre métier. Oui, parce que c'est vrai que nous, on est arrivés, on était des bébés. On est arrivés, on avait entre 14 et 15 ans, 16 ans, on quittait nos parents.
14 ans, on était un enfant.
On commençait. Et donc, on arrivait dans un monde qui est quand même un monde d'adultes, un monde avec un stress, pression et surtout beaucoup d'autorité. Donc c'est assez, quand même assez violent, intellectuellement parlant. Et donc on subissait ça sans trop réfléchir, en acceptant. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans ce métier-là, qui ont un peu plus de maturité...
Ils n'acceptent rien sans réfléchir.
Ils acceptent rien sans réfléchir, mais j'ai envie de vous dire tant mieux aussi. Voilà, tant mieux aussi, mais aussi ils sont plus mûrs, ils ont déjà une petite personnalité. Et bien souvent, ils ont déjà fait des études qui élèvent quand même, je dirais, le milieu de la cuisine.
Bon, on a 1000 choses à se dire. Alors, on fait une pause très courte, on retrouve tout de suite Yves Candebord, cet après-midi, mon invité.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Bon, sa modestie s'agace quand on le présente comme le chef de file de la bistronomie, et pourtant, c'est bien réel. Je reçois le chef Yves Candebord. Alors, cher Yves, vous êtes né à Pau, la cité d'Henri IV, pas loin des contreforts des Pyrénées, en Nouvelle-Aquitaine. Mais en fait, c'est tellement plus inspirant, plus joli d'évoquer l'ancien nom, le Béarn. Alors, pour qui n'est pas de la région, Béarn et Gascogne, bah, ça semble raconter la même histoire. Cyrano de Bergerac était gascon. Il est peut-être votre ancêtre, ou bien ça va fâcher les Béarnais si je dis ça ?
Non, c'est possible. Mais je préférerais que vous me disiez que D'Artagnan est peut-être mon ancêtre.
Ah oui, vous préférez D'Artagnan à Cyrano?
Oui, parce que D'Artagnan, voilà, c'est la Vallée d'Aspe. C'est la Vallée d'Aspe avec Athos, Porthos. Donc je me sens beaucoup plus proche de D'Artagnan que de Cyrano, que j'adore aussi.
Bon, votre père avait une ferme. Votre maman tenait une charcuterie. Voilà, bien manger, c'était donc sacré chez les Cordebord. On a évoqué au début de cette conversation le rituel des repas de famille. Il durait longtemps chez vos parents, les repas familiaux, le dimanche.
Je veux dire qu'il commençait vers 13h30, 14h le dimanche et il finissait le dimanche soir pas avant minuit. Oui, il y avait un rituel très jovial et très partageur. Papa et maman travaillaient beaucoup. Donc c'était le dimanche qu'on passait beaucoup de temps ensemble autour de la table. C'était un moyen pour nous aussi de communiquer, d'échanger, de débriefer, des fois de chanter aussi et de très bien manger.
Vous chantez bien ?
Je chante pas bien, mais je chante beaucoup.
Bon, il paraît, Yves Cordebord, que lorsque vous êtes arrivé à Paris, apprenti donc chez les grands chefs, vous avez été surpris en fait de les entendre répéter qu'ils ne travaillaient que de bons produits. Parce que les bons produits, chez vous dans le Béarn, en fait c'était naturel et quotidien, c'est ça ?
Oui, disons qu'une fraise venait tout simplement de la terre, qu'une tomate venait de la terre. Quand j'entendais parler qu'il y avait des fraises qui étaient hors sol, des tomates qui étaient hors sol, que les veaux étaient élevés en batterie, je comprenais, je me demandais de quoi on me parlait. Étant donné que nous, dans notre environnement, dans notre quotidien, nous n'avions que des produits, entre guillemets, juste normaux.
Pourquoi vous avez quitté l'école à seulement 14 ans ?
J'ai quitté l'école parce que je ne comprenais pas à quoi ça servait. Voilà. J'étais en plus en avance, je suis rentré en seconde de C, j'avais 14 ans.
Donc vous étiez un excellent élève.
Et oui, j'avais de très très bonnes notes en tout ce qui était mathématiques, technologie, sciences. Ça paraissait tellement logique. Mais je n'arrivais pas à comprendre, personne n'a su me sensibiliser, à m'expliquer à quoi ça servait. Ça paraît assez particulier, mais j'ai dit je ne comprends pas à quoi ça sert, donc je m'en vais. Et papa et maman qui travaillaient beaucoup, qui n'avaient pas trop le temps de s'occuper de moi, donc m'ont laissé prendre une voie différente.
Mais alors, vous allez m'expliquer si il est vrai que l'éducation nationale, donc quand vous avez quitté l'école à seulement 14 ans, vous a donné à choisir entre trois métiers, pas un de plus, mécanicien, plombier et cuisinier, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Disons que quand on était en troisième, j'étais en troisième, et on m'avait donné le BEPC sans le passer. Et je leur ai dit non, mais j'arrête, je n'irai pas en seconde C, hors de question, je n'ai pas envie de continuer. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je leur ai dit écoutez, ce que vous voulez. Donc la conseillère d'orientation de l'époque m'a dit écoutez, il faut faire un métier manuel, vous allez rentrer dans un LEP, et voilà, vous pouvez choisir entre plombier, mécanicien ou cuisinier. Bon, moi, naturellement, je me suis tourné vers la cuisine, parce que voilà, par rapport à cet art de vivre autour de la table qui me plaisait énormément. Oui. Je me sentais plus la vocation de cuisinier que de plombier ou que de mécanicien.
Mais alors, à partir de là, Yves Cordebord, il va falloir quand même nous expliquer comment, depuis votre CAP de cuisinier, jusqu'au concours du meilleur apprenti de France, l'omelette, je dis bien l'omelette, vous a porté chance, de la ville de Pau jusqu'à Paris.
Oui, c'est une histoire assez cocasse. C'est assez cocasse parce que j'ai commencé métier cuisinier dans un petit restaurant palois qui s'appelait les Pyrénées Place Royale. Oui. C'était le restaurant de M. Labarrère, du maire de Pau. Oui. Et on faisait des omelettes. Et l'omelette, ça paraît très simple, mais c'est un geste technique quand même très délicat. Et on faisait jusqu'à 50 à 60 omelettes tous les jours. Et le jour de mon CAP, au tirage au sort, je tombais sur omelette aux fines herbes. Donc l'omelette, je savais les faire, donc je l'ai faite à la perfection, j'ai fini premier. J'ai été sélectionné, parce que c'était le concours qui s'appelle le concours du meilleur apprenti de France, à la sélection régionale à Cabreton. Et au tirage au sort, je suis encore tombé sur omelette. Et donc j'ai encore fini premier, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'apprentis qui savaient faire les omelettes, parce que bien souvent, les apprentis des grandes maisons savent faire des plats magnifiques.
On considère que ce n'est pas assez noble, c'est ça ?
Oui, tout à fait. On considère que ce n'est pas assez noble. Et donc voilà, j'ai fini premier, donc je me suis retrouvé en finale à Paris.
Ne me dites pas que c'était encore l'omelette.
La demi-finale, donc à Paris, c'était au lycée Ferrandi. Je suis tombé sur omelette Archiduc.
À nouveau.
Et c'était une omelette farcie au foie de volaille. Et donc, à nouveau, j'ai fini premier. En demi-finale. Et je me suis retrouvé en finale. Donc, on était 12 apprentis, avec des apprentis de chez M. Guérard, de chez M. Bocuse, de la maison Le Nôtre. Oui. Donc, il y avait tous les meilleurs apprentis des grandes maisons françaises. Et là, par contre, on est au tirage au sort, je suis tombé sur Poire Condé, Sol Soufflé, Un Carré de Vous Choisi. Et là, je ne savais même pas ce que c'était.
Non.
J'étais incapable de réaliser là, ça. Et la petite histoire...
C'est assez extraordinaire parce que vous dites, je ne savais même pas ce que c'était, je n'étais pas capable de le réaliser, mais pourtant, au cours de cette finale, le responsable de l'épreuve vous a donné sa carte, il vous avait repéré. Donc, il a immédiatement deviné le potentiel, mais sur quoi ?
Non, mais je suis en finale quand même, c'est la finale, c'est les 12 meilleurs apprentis de France. Donc, obligatoirement, moi, je suis susceptible d'avoir des compétences pour la suite de mon métier. Et après, je pense aussi qu'il y a un peu de pitié, parce que ouais, quand il voit un petit jeune qui est en pleurs parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande...
Il vous donne sa carte, par pitié.
Il me donne sa carte, ouais. Oui. Et c'était le chef du rythme, M. Guy Leguet, qui me dit, voilà, t'inquiète pas, dans la vie, on apprend toujours. Si t'es volontaire, tu peux y arriver. Et il me dit, voilà, appelle-moi quand tu auras fini ton apprentissage, appelle-moi, je te prendrai à Paris.
C'est ce que vous avez fait, effectivement. Et vous êtes entré au Ritz, Yves Cordebord, palace mythique donc, dont le chef, Christian Constant, est devenu en quelque sorte votre père spirituel, c'est ça?
Oui, alors Monsieur Constant, à l'époque, était le sous-chef. C'était le chef, c'était Monsieur Guy Leguet. Donc Monsieur Constant était le sous-chef. Et quand je suis arrivé avec mon accent aussi, le petit gars du Sud qui monte à Paris, il m'a pris un peu sous son aile, parce qu'il a vu que j'étais pas très compétent, mais très volontaire. Et c'est devenu quelqu'un qui a été pour moi primordial dans ma carrière professionnelle et même dans ma vie personnelle, parce qu'il m'a énormément aidé humainement et professionnellement, ouais. Qui a toujours eu la force en lui de me respecter, de concevoir que j'avais pas que des qualités, que j'avais des défauts. Et donc il m'a donné la force, l'envie, et surtout il m'a fait découvrir que le métier de cuisinier est un métier merveilleux, certes par le rapport qu'on peut avoir avec les convives, mais aussi merveilleux par rapport à la création, par rapport à la matière première, par rapport à l'investissement qu'on y amène.
C'est, alors je ne vais pas dire le Cyrano, mais le D'Artagnan de la gastronomie que je reçois cet après-midi, Yves Cordebord, qu'on retrouve dans quelques instants. Alors Yves Cordebord, on va continuer de dérouler le fil de votre histoire. Après 5 années passionnantes passées au Ritz, donc dans les cuisines de Christian Constant, eh bien vous vous retrouvez, pour des raisons de licenciement économique, ancré soudain dans le réel au restaurant La Marée, dans le 8e. Là, vous allez découvrir ce qui sert vraiment à devenir un patron. J'aimerais bien savoir si tous les grands chefs ont des âmes d'entrepreneurs. Il n'y a pas de grand chef qui n'ait pas en réalité le sens des affaires.
Non, je pense qu'il y a pas mal de grands chefs qui n'ont pas le sens des affaires.
Ah ouais. Si.
Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui, quand on a la chance de travailler voilà, dans des très grandes maisons avec des moyens et pas une obligation de rentabilité.
Oui, là, on est comme un peu pris en charge.
Voilà, on est quand même pris en charge. Et donc, on peut aller au bout de son expression, des fois même excessive, autant autour du produit ou de l'art de la table.
Alors, après le restaurant La Marée, donc, vous avez été recruté par la Tour d'Argent, restaurant mythique qui fait fantasmer les touristes fortunés. Et alors là, Yves Cordebord, désillusion totale, désillusion absolue. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Mais j'ai été recruté. Voilà, à l'époque, c'était un transfert entre le restaurant La Marée et la Tour d'Argent, 3 étoiles Michelin. Donc moi, c'était un peu un rêve. Ouais. Un rêve surtout que j'allais d'un restaurant mythique de la gastronomie, de l'histoire de France. Et malheureusement, c'était monsieur Claude Terrail, qui était un monsieur exceptionnel, qui était déjà quand même très âgé et qui n'avait pas évolué, j'ai envie de dire, par rapport à la restauration, quoi, qui était encore restée sur des schémas très classiques de 30 à 40 ans en arrière. Donc on a été un peu déçus par rapport aux prestations qu'on réalisait. C'est très délicat d'en parler parce que c'est un monsieur que je respecte énormément et c'est un restaurant qui est magnifique, mais c'est vrai que ça avait été une grosse déception technique et personnelle par rapport au lieu.
Alors, à la Tour d'Argent, vous étiez en charge des sauces, n'est-ce pas? Bon, le saucier, c'est un magicien. C'est vraiment l'alchimiste des saveurs, le saucier.
Oui, c'était le poste le plus important. Quand on est arrivé à être chef saucier, c'était quelque part pour nous le Graal avant de passer sous-chef ou de passer chef.
Ah oui.
Parce que la sauce dans la gastronomie française a une importance primordiale et le monde entier nous envie. Voilà, de la façon dont on a traité ces préparations qui sont très délicates, qui sont très soigneuses et qui souvent font l'âme du plat.
Est-ce que les goûts ont beaucoup évolué en matière de sauce et d'accommodement depuis 30 ans?
Oui, ça a énormément évolué. Il y a eu une très très grosse évolution, je dirais, depuis les années 80-85 avec la nouvelle cuisine, avec toute la bande de ces grands cuisiniers français, les Michel Guérard, les Roger Verger, les Alain Chapelle, qui ont eu l'intelligence de dire que la sauce était une des références de la cuisine française, mais qu'il fallait faire des sauces beaucoup plus onctueuses et beaucoup plus légères, moins riches. Mmh. Voilà, parce qu'aussi, le gastronome a changé. Si on prend le gastronome des années 80, c'était un monsieur qui allait manger au restaurant et qui pesait pas loin de 100 kilos.
Et aujourd'hui, il est filiforme.
Et il est filiforme, et qui faisait la sieste après. Aujourd'hui, l'homme d'affaires, le gastronome vient et doit travailler derrière. Donc, il continue à manger quand même la quantité, mais c'est une quantité qui est beaucoup plus équilibrée et tout en légèreté.
C'est pour ça que tout à l'heure, on va évoquer le gras intelligent, justement. Mais d'abord, continuons par rapport à votre parcours, Yves Cordebord. Dès que Christian Constant a été nommé au Crillon, place de la Concorde, donc l'un des plus anciens, des plus prestigieux palaces au monde, bah, vous avez foncé le rejoindre, c'est-à-dire que vous avez quitté donc, la Tour d'Argent. Et 4 ans plus tard, Christian Constant vous a encouragé à monter votre propre affaire, donc loin du protocole des palaces et de la gastronomie étoilée. Et pour ça, comme il croyait très très fort en vous, il vous a prêté de l'argent.
Ouais, ouais, il m'a prêté.
C'est comme ça qu'a pu naître la régalade.
Oui, c'est comme ça qu'est née la bistronomie. Hein. Sans cet apport financier, je pense que la bistronomie ne serait peut-être pas née, ou je ne sais pas si quelqu'un l'aurait réalisé. Oui, j'avais en moi l'esprit du vagabond, déjà l'esprit un peu de liberté. Là, même si je pense que je réalisais ma partition au crayon à 200% de mes moyens, ouais. Je respectais les règles, et j'étais vraiment l'employé modèle, le petit soldat modèle qui s'investissait pour la maison.
C'est pour ça que c'est très audacieux d'aller suivre son parcours loin des étoiles. Loin de cette gloire-là académique.
Ouais, je ne sais pas si c'est audacieux en fin de compte, parce que c'est bien, pour moi, c'était bien au contraire. Ce n'était pas d'audace, au moins, c'était vraiment de la réalité. Ouais. Voilà, j'étais conscient que j'avais besoin d'être moi-même. Je n'avais pas envie d'être le sous-chef de l'hôtel Crillon.
Mais vous êtes allé poser, en fait, vos valises du côté de la Porte d'Orléans. Ça aussi, ça a dû surprendre le monde de la gastronomie.
Alors, celle-là, par contre, c'était un pari osé, mais il y avait des critères pour moi qui étaient primordiaux. C'est que je voulais impérativement un petit appartement au-dessus, ouais. Parce que je savais très bien que j'allais me vestir et que ça allait être ma vie. Donc, je voulais que ma famille soit vraiment à côté de moi et vive aussi avec la même intensité, le même bonheur, le lieu. Et je voulais aussi une cuisine de plein pied. Parce que je ne voulais pas me retrouver à Paris. Bien souvent, les cuisines sont dans les caves,
ah oui.
Où elles sont décalées. Je voulais de plein pied parce que je voulais instantanément pouvoir dire bonjour, aller embrasser, aller rigoler, aller partager avec le client. Pour moi, c'était presque le plus important, c'était ça. La cuisine, peu importe si j'avais elle était toute petite, ça ne me dérangeait pas du tout. Elle était très mal équipée. Je me disais, c'est pas grave, je me débrouillerai. Mais je voulais garder le contact. Voilà. Le petit mot sympathique. Voilà, ça nous galvanise et ça nous permet d'exister. Et ça, pour moi, c'était indispensable.
Alors, ce bistrot La Régalade, il était à une adresse inattendue, effectivement, du côté de la Porte d'Orléans. Vous serviez des recettes de restaurants étoilés dans des assiettes de bistrot. Mais ça vous a valu une réputation internationale, parce que le monde entier est venu vous voir.
Oui, oui, totalement. On a été un peu... j'ai totalement été dépassé par le succès, parce que je n'y attendais pas du tout. Et comme je le dis, quand on me dit « tu as créé », je dis « vous savez, je n'ai pas créé grand-chose, je n'avais rien écrit, j'ai simplement fait ce que je pensais qui était bien à faire ». Et on a eu, voilà, il y a eu un boom autour de cette maison.
Ils sont venus vous voir, les grands chefs étoilés ?
Oui, oui, tout le monde est venu.
Tout le monde est venu.
J'ai le droit à tout le monde, que ce soit tous les grands chefs étoilés, toutes les stars françaises et internationales. J'ai eu des émotions. Aimé Jacquet m'a amené la Coupe du Monde après l'avoir gagnée.
Ah oui !
J'ai eu des choses assez incroyables dans un lieu qui était quand même très très simple, très anodin, et où on faisait une cuisine en toute simplicité.
Eh bien, cet après-midi, on se balade en compagnie de l'empereur de la bistronomie, Yves Candebordes, qu'on retrouve dans un instant.
Europe 1.
Je reçois Yves Candebordes, chef emblématique de la bistronomie, que vous retrouvez régulièrement dans l'émission de mon camarade Laurent Mariotte, La Table des Bons Vivants, donc le samedi, dès 11h sur Europe 1. Alors, Yves Candebordes, vous nous disiez tout à l'heure, dans les années 80, les gastronomes pesaient 120 kilos en 2020, et bien les gastronomes, ils sont absolument finiformes. On a donc appris en gastronomie à retirer les calories sans altérer le goût. En fait, aujourd'hui, on cuisine du gras intelligent, c'est ça ?
Oui, totalement. Je pense parce que le gras est un corps hyper important. C'est quand même un exhausteur de goût.
Oui,
donc on
ne
peut pas s'en passer.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je vais vous prendre un exemple, on faisait une seule meunière. Elle était cuite entièrement dans le beurre. Elle était pratiquement confite dans du beurre.
Et alors aujourd'hui, on fait comment ?
Aujourd'hui, on va la cuire simplement à l'huile d'olive. C'est simplement en fin de cuisson qu'on va rajouter la petite cuillère à café de beurre qu'on va faire mousser et qu'on va déposer dessus.
Et c'est aussi goûteux alors que la petite cuillère de beurre arrive à la toute fin du parcours.
C'est beaucoup moins lourd, mais on a le goût du beurre. Parce que le goût du beurre, c'est le goût du beurre noisette. Alors qu'en plus, quand on travaille avec un beurre noisette et quand on travaille avec un beurre salé, donc on a ces pépites de sel qui se mélangent à ce goût de noisette que le beurre a apporté, et c'est remarquable. Voilà, on a pratiquement à l'identique de la fameuse sole meunière qu'on faisait à l'époque, qui était beaucoup plus lourde, mais avec un très bon goût de beurre quand même.
Alors là, vous évoquez la seule meunière, mais par exemple, votre sauce blanquette, qui est un pur délice et qui est connue dans le monde entier, vous ne la cuisinez pas aujourd'hui comme vous la cuisiniez il y a 20 ans.
Non, totalement. Elle est cuisinée totalement différente déjà, parce que voilà, on y amène une sauce blanquette. Bon, on va faire simple, c'est une viande qui a été bouillie, on récupère la cuisson. À l'époque, on la liait avec des roux. Le roux, c'était autant pourtant du beurre et de la farine qu'on faisait torréfier et on déposait après le jus dedans et ça l'alliait. Donc c'était quelque chose qui était assez,
très
assez
crémé,
compact.
Quoi.
Voilà. Maintenant, au contraire, voilà, on va la faire réduire. On va aller plus sur une réduction pour voilà, de corser la saveur et on va la lier avec des jaunes d'œufs. Voilà, comme si on cuisinait pratiquement une crème anglaise. Mais par contre, ça se lie pratiquement à la dernière minute avec une pointe de citron, l'acidité qui est tellement importante aujourd'hui,
oui.
qui amène tellement de fraîcheur et de légèreté à tout ce qu'on fait.
Beaucoup plus d'acidité dans les recettes aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans.
Oui, parce que ça amène beaucoup de fraîcheur. Ça nous permet de conserver cette fraîcheur, surtout sous une sauce blanquette qui est quand même une sauce qui était crémée. Donc la crème fleurette, même si aujourd'hui on travaille moins avec une crème épaisse, on travaille plus avec des crèmes un peu plus allégées. On a quand même ce côté quand même suave que la crème apporte. Et avec le jaune d'œuf et le citron, ça nous permet d'avoir une sauce qui est très légère, mais qui conserve le goût quand même.
Alors, les grands chefs cuisinent donc aujourd'hui du gras intelligent. Vous avez dit tout à l'heure que le gras, c'était un exhausteur qui fixe les saveurs. Mais tout de même, Yves Candebord, quand on se régale chez vous du beurre béarnais qu'on étale sur les tartines, et qui est un pur délice, eh ben, on ne sait pas forcément que c'est du gras de cochon, bien baratté, assaisonné de romarin, de gingembre et d'ail. C'est absolument divin, mais c'est hyper calorique.
Alors là, je dois reconnaître, oui, on met ça sur les avant-comptoirs.
C'est le seul bémol.
Oui, mais alors ça part d'une recette, c'est pas... Alors moi, c'est moi qui ai inventé ce mot, le beurre béarnais, parce qu'à l'origine, on trouve ça sur les marchés bretons. C'est ce qu'ils appellent le lard blanc salé en Bretagne.
Oui, voilà. Oui.
Et donc, j'avais goûté ça sur un marché en Breton à côté de Pont-Aven, à Kerdruc, et j'avais trouvé ça très agréable. Et j'ai dit, et c'est bien parce qu'en plus, j'élève des cochons.
Des cochons race, noirs.
Des noirs de Bigorre, qui est une race qui est assez grasse.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on avait ce gras. Alors, on s'était amusé à faire des savons avec le gras de cochon. Voilà. Et on s'est mis à faire ce beurre cochon, je vais appeler ça comme ça. Et c'est vrai qu'on l'a aromatisé voilà, pour lui donner des touches aussi un peu plus contemporaines avec le gingembre et le romarin. Et ça fait quelque chose qui est très agréable. Alors, c'est à consommer quand même avec modération. Je dois le reconnaître.
Bon. Et quels sont les plats les plus prisés au comptoir du Carrefour de l'Odéon, votre bistrot, Yves Candebord ?
Alors, je dirais, ça va dépendre un peu de la saison, parce que étant donné qu'on travaille que des produits des saisons, si je prends l'hiver, je pense qu'un des plats références de l'hiver, c'est le lièvre à la royale. Alors ça, c'est vraiment, on ne l'a pratiquement pas changé, c'est vraiment une recette traditionnelle française,
ouais.
qui est un lièvre désossé, reconstitué, poché dans un fond et après lié avec le sang du lièvre.
C'est une recette qui a plus de 2 siècles,
ouais,
ça,
c'est
3 siècles.
Qui est très très vieille dans la gastronomie ouais. française, mais c'est une recette référence, je pense qu'il faut l'avoir goûtée une fois dans sa vie.
Et l'été par exemple, les recettes légères.
En ce moment par exemple, on a une entrée, c'est une entrée référence maintenant depuis une dizaine d'années, c'est avec des aubergines. Alors on fait une aubergine marinée avec du vinaigre de grenade et on rajoute dessus un peu la sauce yuzu,
oui.
c'est un petit jus japonais,
oui.
et on agrémente ça avec du parmesan, de la roquette, et ça donne quelque chose de très frais, très agréable, et surtout on prend des aubergines qui sont très peu humides, donc c'est des aubergines qui sont assez croquantes,
oui.
et ça permet d'avoir une texture très précise, et ça fait maintenant je crois 4-5 ans qu'on le fait chaque année, tous les étés, et c'est devenu une entrée référence.
J'ai faim. Bon, Yves Candebord, depuis 2003, vous avez fait du Carrefour de l'Odéon à Paris, le carrefour des gourmands et des bons vivants, avec un bistrot, le comptoir, un avant-comptoir de la mer, un avant-comptoir de la terre et même un avant-comptoir du marché. Bref, c'est la planète gourmande Candebord avec l'ambiance, comme je disais tout à l'heure, des films de Claude Sautet. Vous avez donc racheté cette place mètre carré par mètre carré.
En
30 ans.
Disons que un côté de la place, autour de moi, il y a des collègues restaurateurs. Dont
Parce qu'il y a l'hôtel aussi.
Alors, et on a un hôtel aussi. Au-dessus, on a un hôtel, le Relais Saint-Germain, qui est vraiment un hôtel de famille. Mais c'est quand même 4 étoiles, donc on a une très belle chambre. On arrive à mettre une dimension humaine dans ce qu'on fait. Je pense que là, c'est pour ça qu'on a une clientèle qui est heureuse de venir passer des moments avec nous. Parce qu'il y a de la vie. Il y a une vie qui est en toute simplicité, qui est en une très belle qualité, mais surtout, on ne se prend pas au sérieux et on essaie de rendre les gens heureux.
Mais vous dites, on ne se prend pas au sérieux, mais tout de même, 90 employés en coulisses, pour que tout ça roule à la perfection, ça demande une intendance quasi militaire.
Alors, c'est notre métier, une intendance quasi militaire, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de détails et beaucoup de précisions et surtout beaucoup de répétitions, donc il faut vraiment être très organisé. Mais après, le mot militaire, je pense que c'est plus de la rigueur et de la discipline.
Mmh.
Voilà. Parce qu'après, il faut qu'on garde quand même l'envie, il faut qu'on garde le plaisir.
Alors, Yves Candebord, 90 employés, bien sûr, c'est en comptant ceux de votre hôtel Relais Saint-Germain. Et je voudrais préciser une chose sur cet hôtel, parce qu'il a quand même reçu en 2017 un prix étonnant. décerné par les journalistes de 24 magazines internationaux réunis en jury, le prix de la meilleure atmosphère dans un hôtel en Europe. Alors, je ne savais même pas que ce prix existait. Comment vous, le cuisinier, vous choisissez le personnel qui ne cuisine pas, justement, mais qui s'adresse en salle aux clients ou dans l'hôtel, qui est donc en contact avec la clientèle?
Mais je crois que c'est identique que je choisisse mon valet de chambre ou mon chef de partie en cuisine ou mon directeur de salle ou ma réceptionniste. Pour moi, c'est la même chose. L'une des premières questions que je leur dis, est-ce que vous aimez les gens? Voilà. Est-ce que vous aimez les gens? Est-ce que vous êtes heureux de rendre les gens heureux? Et si la personne me dit oui, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important, ben je lui dis, écoutez, on peut travailler ensemble, on est fait pour travailler ensemble. Moi, tous les matins, je bois le café avec mes balayeurs dans la rue et je les remercie. Je leur dis, vous savez que sans vous, mais Paris ne serait pas comme il est. Au moins le 6e arrondissement, parce que Paris n'est pas tout dans cet état-là. Mais sans vous, on ne serait pas heureux d'être là. Parce que c'est beau et c'est propre.
Et ben, vous voyez, métier. Vos ondes positives sont en train d'infuser toute cette conversation. C'est formidable. On s'interrompt pas longtemps, c'est promis. On retrouve tout de suite Yves Candebord. Yves Candebord, vous avez toujours clamé haut et fort que la planète entière envie nos bistrots, qu'il est impossible de reproduire à l'étranger, impossible de dupliquer sous d'autres latitudes. Alors, c'est parce que la composante essentielle, en fait, c'est le client, ce satané français. Pas toujours de bonne humeur, mais en fait tellement attachant, c'est ça?
Oui, je pense que les Français, on est des latins, donc on s'exprime. Rien qu'à nous regarder les uns les autres, on sait si on est en colère ou pas en colère. Voilà, on n'est pas lisse. Et ça fait le charme aussi de notre culture et de notre façon de se comporter. Moi, je trouve que le bistrot français, moi j'aime le bistrot français parce que voilà, il peut y avoir aussi un patron qui est un peu grognon, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Quand vous rentrez dans le bistrot, de fois...
Mais parce que vous nous parliez tout à l'heure, justement, du bonheur de faire et de recevoir. Mais en même temps, vous accordez à certains patrons de bistrot le droit d'être grognon.
C'est pas parce qu'il est grognon
qu'il n'est pas heureux d'être là
et qu'il reçoit. Moi, je prends un exemple qui, malheureusement, un monsieur qui est parti, Jean Charion, qui tenait le 22 rue Boulard. Voilà, quand on arrivait, il anglais tout le monde. Il anglais. Mais quand après, vous passiez 5 minutes, voilà, pendant 5 minutes, vous bataillez un peu, vous passiez cette porte, vous arriviez à rentrer en lui. C'était une personne succulente, une personne succulente.
Donc, pour toutes ces raisons, Yves Candebord, on peut délocaliser et exporter la haute gastronomie française, mais absolument pas ses bistrots.
Ah oui, complètement. Je pense que le bistrot, c'est une atmosphère, c'est une façon de se comporter, c'est un patron. Voilà, c'est un patron parce que voilà, c'est quelqu'un qui va ambiancer sa salle, qui va amener sa philosophie, son caractère bon et mauvais. Et que la gastronomie, voilà, c'est plus un récital d'un très très haut niveau où tout est parfait, où tous les gestes sont maîtrisés, où il y a pas d'impureté, il y a pas de faute. Tandis que dans le bistrot, il peut y avoir des fautes, il peut y avoir un peu de bousculade, il peut se passer quelque chose, quoi. Il y a de la vie.
Bon, tout de même, Yves Candebord, sous l'appellation bistrot, il y a le pire et le meilleur, hein, parce que bon, votre cuisine à vous, elle est miraculeuse de saveur. Mais il y a des bistrots dans Paris, comme en province, où on sert des assiettes à peine dignes d'une cantine. J'ai le souvenir, il n'y a pas très longtemps, place Saint-Georges à Paris, d'avoir commandé une niçoise dans un bistrot juste avant d'aller voir une pièce de théâtre. Bon, les feuilles de salade étaient totalement fanées, sans vinaigrette. Trois pauvres haricots verts se battaient en duel avec un demi-œuf dur tout noir et le tout était glacé sortant du frigo. Alors, il existe bien des contrôles d'hygiène. Pourquoi n'existe-t-il pas un vrai diplôme de restaurateur? N'importe qui peut ouvrir un bistrot?
Oui, n'importe qui peut ouvrir un restaurant. C'est un des drames de notre métier. C'est qu'il faut, voilà, il n'y a pas besoin de diplôme, il suffit d'avoir des finances pour pouvoir rentrer dans ce métier. Et c'est vrai que ça tire un peu de notre métier vers le bas. L'expérience que vous avez vécue, je pense qu'à Paris, malheureusement, et dans la France entière, on la vit encore très, très souvent. Il faudrait peut-être trouver une réglementation, voilà, que ce soit un chef cuisinier ou un maître de salle qui ait une expérience professionnelle, qui ait un diplôme reconnu, qui ait l'autorisation de pouvoir réaliser un restaurant ou servir des plats dignes de ce nom. Je pense qu'un vrai passeport ou un vrai... Voilà, une vraie reconnaissance par rapport à notre métier pour avoir l'autorisation de monter un restaurant serait quelque chose de bénéfique et surtout tirerait l'ensemble de la restauration française vers le haut.
Vous n'avez pas envie de vous battre pour ça?
On a essayé, mais c'est très compliqué dans notre métier parce que voilà, il y a quand même un aspect financier qui est quand même très important et aujourd'hui, c'est très difficile de défendre ces valeurs-là par rapport à la finance.
Yves Candebord, il paraît que le premier livre de cuisine dans lequel vous êtes plongé et qui vous a appris une foule de choses indirectement liées à la cuisine, c'est le guide culinaire d'Auguste Escoffier. Escoffier, né en 1840. Pourquoi vous recommandez à tout le monde de le lire ?
Mais parce que je pense que c'est la base de la gastronomie française. C'est quelqu'un donc, qui a écrit ce livre au début du, vers 1900 et quelques, qu'il a dû l'écrire.
Oui, puisqu'il est mort dans les années 30.
Oui, il est mort en 36, je crois. Ouais. Et ce monsieur avait déjà vu voilà, un côté très contemporain, une vision très contemporaine de la cuisine française. Il a fait énormément évoluer et il a repris tous les grands classiques, toute l'histoire de France. Et il a amené ça dans ce guide, tout en conservant, je dirais, l'histoire, sans dénaturer quand même cette tradition française que le monde entier nous envie. Et il nous a fait évoluer énormément. Et je pense que quand on commence ce métier, il faut le lire pour comprendre réellement ce que c'est la cuisine.
Les brigades, en 2020, la plupart continuent de fonctionner par rapport à ce que lui avait imaginé, établi.
C'est lui qui a complètement réorganisé le travail en cuisine, qui était un travail avant assez désorganisé. Donc il a mis en place ce qu'on peut appeler une brigade. Là, c'est arrivé à organiser une cuisine de façon à ce que le service se passe le mieux possible, et surtout que le client puisse être servi en temps et en heure avec la qualité qu'on avait besoin. Il a su aussi redorer un peu le métier de cuisinier, parce que c'est lui qui a commencé à le rendre un peu artistique aussi et à le présenter un peu médiatiquement, ce qui a sorti un peu les cuisiniers aussi des cuisines qui étaient très sombres à l'époque. Et je le redis, il a surtout fait l'amalgame d'histoire de France avec précision et surtout en respectant tout ce qui s'était passé avant, point de vue goût, oui, pour le rendre plus contemporain et pour nous permettre aujourd'hui d'essayer de continuer tout le travail qu'il a fait.
Alors, autre livre en bonne place dans votre bibliothèque, c'est celui d'Alain Chapelle. La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. En fait, le titre résume votre philosophie, quoi. C'est votre mantra.
Oui, totalement. Alain Chapelle, c'est pour moi voilà, le cuisinier qui m'a le plus inspiré philosophiquement et intellectuellement, plus que culinairement parlant. Et c'est vrai que si vous avez la chance de lire voilà, toutes les 30 premières pages de son livre, il dit tout ce que représente notre métier et tout ce qu'il faut être quand on est cuisinier. C'est quelqu'un qui a marqué une génération, malheureusement, qui est parti très tôt. Donc, on n'a pas eu la chance physiquement de le connaître. Mais pour avoir lu son livre 4-5 fois, j'ai l'impression que c'est un ami, tellement je m'en suis inspiré.
La formule est jolie. On retrouve tout de suite Yves Candebord.
Europe 1.
Dites-moi, Yves Candebord, vous n'avez toujours pas passé votre permis de conduire ?
Alors là, je vais vous faire mentir, je viens de le passer.
Enfin!
Je vais le passer.
Non, parce que je me disais quand même, c'est pas possible. Un gaillard comme lui, lorsqu'il est dans le Béarn, il peut pas prendre le volant, c'est tout de même handicapant. Donc vous êtes résolu à passer le permis
Alors,
de conduire.
C'est pas handicapant du tout.
Non?
Parce que moi je l'ai passé parce que ouais, je me suis dit, quand même, à ton âge, on sait jamais un jour si t'en as vraiment besoin. Non, mais c'est pas handicapant parce que le fait de pas avoir permis de conduire, vous appelez toujours quelqu'un.
Donc vous êtes toujours accompagné d'un ami.
Vous êtes toujours accompagné d'un ami.
Mais il faut qu'il soit disponible.
Mais j'en trouve toujours. Hein. Je me débrouille pour en trouver. Hein. Mais je trouve que humainement, mais c'est un vrai réconfort.
Bon, il faut dire que sur vos terres du carrefour de l'Odéon à Paris, avec votre bistrot et puis vos différents comptoirs, bah, vous faites tout à pied. Mais par exemple, le marché d'Aligre, votre marché préféré, qui n'est pas très loin de la Bastille, maintenant, vous irez en voiture ou bien vous y allez à vélo ou bien vous y allez en marchant ?
Je suis un adepte de vélo maintenant depuis pas loin d'une quinzaine d'années. Alors aujourd'hui, bien sûr, j'ai la chance d'être à Paris. Donc c'est vrai que les vélos, on est choyé, il faut le dire. On est choyé. Non, j'y vais à vélo. Mais le vélo, c'est magique. Moi, je trouve que le vélo, c'est un moment
quand
de décompression.
Quand il ne pleut pas.
Il pleut très peu à Paris, je vous promets. Moi, j'ai un poncho, je ne le déplie pas si souvent que ça. Non, mais, et puis le marché d'Aligre, alors s'il y a des gens qui viennent de province, je leur conseille d'y aller, parce que c'est un vrai marché de province.
Alors, parlez-nous justement du marché d'Aligre, Yves Candebord. C'est votre marché favori ?
C'est mon marché favori. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est le plus beau marché où il y a les plus beaux produits. Ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'après, il y a des très beaux étals. Il y a un très, très bon boucher, la boucherie des provinces, Christophe Dru, qui fait un travail fabuleux. Mais c'est un marché voilà, où il y a un mélange de gens. Il y a le peuple qui est là, il y a tout le monde qui se mélange. Il y a une vraie atmosphère. Il y a de la gentillesse, il y a de la bienveillance. Il y a les petits bistrots encore, qui sont des bistrots, mais c'est des vrais rades à l'ancienne, où il y a des vrais patrons voilà, qui grognent un peu, mais qui amène une atmosphère particulière. Et surtout, on s'y sent un peu choyé, on s'y sent, voilà, il y a une forme de réconfort quand on va là-bas, et que tout le monde, en plus, on se connaît très facilement, parce qu'on y va assez régulièrement.
Vous devez être connu comme le loup blanc.
Non, mais il n'y a pas que moi, je veux dire, les gens, il y a beaucoup d'habitués. Et j'adore les restaurants où il y a beaucoup d'habitués.
Tisser du lien social.
Il y a un lien qui se met en place naturellement, sans aucun effort, et c'est beau, c'est gentil. Et là qu'on soit de quelle que soit la nationalité, quelles que soient les croyances, on est tous ensemble, on passe des moments merveilleux, et surtout dans ces marchés, moi je trouve que tout le monde a le sourire.
Alors Yves Cornebord, qu'achetez-vous en premier sur le marché d'Aligre quand vous remplissez les paniers pour votre propre frigo? Pas pour votre bistrot, pas pour les clients, mais pour vous. Qu'est-ce que vous achetez en premier?
La première, c'est toujours les légumes.
Ah oui,
ouais, c'est toujours les légumes qui vont donner ma ligne directive de ce que je vais manger durant le week-end. Toujours. Parce que je trouve que le végétal a pris une grosse importance dans la cuisine en général, et le végétal est quelque chose qui amène beaucoup de fraîcheur et beaucoup de légèreté.
Les 4 ou 5 produits, Yves Cornebord, qu'il faut toujours avoir dans une cuisine, ce sont lesquels?
Alors, moi je dirais déjà les deux projets, je vais les associer tous les deux, c'est le sel et le poivre.
Voilà, ça, ah bah c'est... dites-moi, s'il n'y a pas de sel et pas de poivre dans une cuisine, là on est mal quand même.
C'est une base. Après, un morceau de fromage. Dans le frigo, toujours un morceau de fromage.
Ouais, plutôt lequel?
Alors en ce moment, je serais plus camembert pour l'évêque, ou alors une pâte cuite comme un comté. Parce que quand on a un petit coup de moins bien, le soir que je rentre, que j'ai pas trop le moral, je suis content de prendre un morceau de fromage.
Ah oui, c'est régressif, c'est réconfortant, morceau de chocolat noir.
Exactement. Et après, je dirais, dans un frigo, toujours un peu de beurre. Un beurre demi-sel.
Mais dites-moi, c'est quand même du basique tout ça.
Mais c'est du basique, mais c'est de l'indispensable. Pour moi, c'est de l'indispensable.
Et alors, le cinquième, ce serait quoi?
Et le cinquième, je vais rester sur un fruit. Toujours un fruit.
Il n'y a pas de télé dans votre cuisine, n'est-ce pas? Comme il n'y a pas de télé dans votre appartement.
Non, pas de télé.
Mais ça veut dire que vous ne vous êtes donc jamais vu, Yves Cornebord, lorsque vous étiez juré de Masterchef, vous vous êtes jamais vu dans le poste?
Non, jamais vu. C'est le drame de Laurent Mariotte, parce que moi, je ne m'écoute jamais non plus. Il me dit, tu vas t'écouter une fois. Non, j'ai dit, Laurent,
c'est
je peux
pas.
C'est
pas possible.
Non, je peux pas. J'ai essayé une ou deux fois et de suite, je suis trop critique. Non, je peux pas.
Yves Cornebord, il y a 50 ans, la cuisine était une pièce cachée dans les maisons, n'est-ce pas? On y travaillait comme en coulisses. C'était pas un espace noble comme le salon ou la salle à manger. Aujourd'hui, quand on construit une maison, la cuisine est la pièce maîtresse, centrale, la pièce à vivre. Le mot cuisine a donc été anobli. Et voilà, celui qui cuisine est aujourd'hui infiniment respecté. On l'observe, on l'admire.
Oui, je pense que c'est...
Ça devient un métier star.
Oui, ça devient un métier star. Monsieur. Bon, le métier, c'est vrai que le métier a été starifié, mais c'est aussi à la maison. Je pense que la personne aujourd'hui qui cuisine à la maison est devenue socialement une personne très importante, que ce soit l'homme ou la femme. Et c'est pour ça que les cuisines maintenant sont revenues pratiquement dans les centres des appartements ou dans les centres des maisons. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux. Parce que le mot cuisiner, qu'on cuisine une carotte râpée ou qu'on cuisine un bar au caviar, ça s'appellera toujours cuisiner. Donc socialement, c'est accessible à tout le monde. Et que ce soit un enfant, que ce soit un adulte qui cuisine, il y a toujours ce plaisir du partage. On le voit, les enfants. Pourquoi les enfants adorent cuisiner? Pourquoi ils adorent nous faire des gâteaux et qu'on mange une part de gâteau, même si le gâteau n'est pas réussi? C'est parce que ça dégage de l'amour. Et c'est pour ça que la cuisine aujourd'hui est devenue, je crois, hyper importante dans le milieu familial. Et c'est très français aussi, parce qu'on aime quand même cet art de vivre autour de la table, et qu'il faut le préserver, et que les gens aujourd'hui acceptent de cuisiner, parce que ce n'est pas considéré comme une tâche ménagère, c'est considéré comme de l'art.
Justement, j'ai cette question qui me vient, il y a parmi les grands chefs, ou les chefs étoilés, multi-étoilés, il y a de plus en plus de femmes, ou elles sont quand même assez peu nombreuses?
Alors, je vais vous répondre de deux façons, je vais vous dire, il n'y en a pas assez. Mais elles sont de plus en plus nombreuses.
Bon, Yves Cornebord, hélas, on arrive au terme de cette conversation, mais que faut-il vous souhaiter en 2021?
Non, de garder le plaisir, de garder la vie. Tout simplement, pas grand-chose. Non, juste le plaisir. Qu'on garde le plaisir de vivre malgré ce qui peut arriver, parce qu'on a passé une année 2020 quand même très délicate.
Ouais.
Voilà, moi, j'ai perdu un très bon ami, Sébastien Demont, en début d'année, ça a été très dur.
Qui était critique gastronomique.
Donc ça n'a pas été... Bon, comme ça, c'est des choses de vie. Après, ce qui nous est arrivé avec ce Covid aussi, c'est très délicat. Mais malgré ça, je pense qu'il faut garder la vie. Il faut garder le plaisir. Et surtout, voilà, se dire qu'il y a toujours pire et qu'il faut ce sourire et cette envie de partager, cette envie de donner, il faut la conserver.
Eh bien, je rappelle aux auditeurs que Vauter Béarnais se trouve Carrefour de l'Odéon, à Paris, dans le 6e. Et puis, bien sûr, que ce plaisir du partage, eh bien, on peut le constater avec vous lorsque vous êtes aux côtés de mon camarade Laurent Mariotte dans l'émission Les Bons Vivants, chaque samedi à partir de 11h sur cette antenne. Voilà. Alors, je vous dis à très vite sur Europe 1 et à très vite ailleurs, au marché d'Aligre peut-être.
Bah, écoutez, avec grand plaisir.
Hein, pourquoi pas demain? Allez, on se donne rendez-vous.
Merci
à bientôt.
Beaucoup.